J'ai repéré parmi vous quelques visages connus. J'en déduis que nous sommes un certain nombre, sans doute, à aimer beaucoup cette église et la communauté qui l'habite. Pour d'autres, c'est telle ou telle église ailleurs. Nous avons avec ces lieux une histoire plus ou moins longue et souvent marquante. Et pourtant, lorsque nous en fêtons la dédicace, c'est-à-dire le souvenir, l'anniversaire de la consécration, les textes de l'Écriture que nous lisons nous disent que Dieu ne réside pas dans les pierres. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, nous a dit le récit de l'Apocalypse. C'est à Jérusalem. Il n'y a donc plus de temple. Et le temple, c'est bien autre chose que cette église. Il n'y en avait qu'un. C'était là où Dieu résidait. C'était le seul lieu où on pouvait lui offrir les sacrifices. Il n'y a plus de temple. Et le récit des Actes des Apôtres nous dit que pour les païens qui rejoignent le groupe des disciples de Jésus, il n'y a plus également de circoncision nécessaire. Pour les Israélites, eux aussi disciples de Jésus, contemporains de ses premiers disciples, cela faisait quand même beaucoup, beaucoup trop parfois. Plus de temple, plus de circoncision nécessaire. Voici donc l'émergence d'un peuple nouveau, libéré de tout ce qui particularisait Israël et l'opposait à ce qu'il appelait les nations, les païens. L'Apocalypse nous décrit la ville de façon symbolique. Elle a 12 portes. C'est le nombre qui signifie l'universel. Elle est ouverte aux 4 points cardinaux. Ces portes-là portent précisément le nom des 12 tribus d'Israël. Car, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Oui, Jésus le Christ est juif. Il naît d'Israël, mais il ouvre l'accès au Dieu d'Israël à toutes les nations. Et les fondations de la ville portent le nom des apôtres qui ont été envoyés à toutes les nations, à toute la terre. Ces récits nous décrivent donc les débuts de la première communauté. Mais en même temps, ces récits sont pour nous aussi aujourd'hui. Et peut-être, comme eux à l'époque, avons-nous à chercher dans nos comportements chrétiens des particularités qui seraient incompréhensibles, voire irrecevables pour les nations d'aujourd'hui, nos contemporains. Particularisme qui nous viendrait simplement de traditions humaines relatives, des héritages culturels qui sont les nôtres, que ce soit dans la liturgie, dans la compréhension des dogmes ou la compréhension des exigences morales. Le pape François ne cesse de nous dire que la doctrine chrétienne est pastorale. C'est l'annonce de la bonne nouvelle qui est première. Et sa récente réforme de la curie place un dicastère, c'est un ministère, un dicastère de l'évangélisation au-dessus de la congrégation pour la doctrine de la foi. Le récit des Actes des Apôtres, lui, nous a présenté les 3 obligations imposées aux païens, c'est-à-dire aux non-israélites qui viennent à la foi au Christ. elles sont négatives. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, tant mieux pour nous, mais ce dont il faut s'abstenir. Et cette courte liste, à travers d'autres mots, recouvre en fait le décalogue, qui nous a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que Yahvé. Ici, tu ne prendras pas les viandes offertes aux idoles. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. » Très bien. Mais nous sommes peut-être surpris par la troisième prescription sur le sang et les viandes non saignées. Il y a quelques années, 10-20 ans, ça nous aurait paru d'un autre temps, d'un autre monde. Mais ces questions redeviennent d'actualité aujourd'hui, avec l'émergence du fait que les animaux ont une sensibilité, qui peuvent ressentir une souffrance, avec la montée de l'antispécisme, la critique de l'élevage intensif et des conditions de l'abattage dans les abattoirs. Le cachère et le halal sont souvent questionnés comme pratiques cruelles, quelque part inhumaines. Ne s'agit-il là que d'un tabou alimentaire ? Je ne pense pas. Je vous propose de comprendre cette troisième interdiction à la lumière du livre de la Genèse. Lorsque Dieu, contrairement à ce qui est écrit dans le premier chapitre où l'homme et la femme sont végétariens, et je suis certain ou presque qu'il y en a parmi nous, lorsque Dieu donc autorise ensuite l'homme à manger de la viande parce qu'il est incapable de s'en priver, c'est au chapitre 9, après le déluge, Noé reçoit la consigne de ne pas consommer le sang, car le sang, c'est l'âme, c'est-à-dire la vie elle-même, et la vie n'appartient qu'à Dieu. Il y a là, sous forme symbolique, un interdit porté sur la violence. Tu ne prendras pas la vie. Et nous est dit par ailleurs, qui versera le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. C'est l'escalade de la violence dont nous sommes, hélas, si souvent témoins. Et dans la Bible, il y a une forte relation entre l'idole et la violence, et aussi entre l'idole, la violence et la sexualité. Non pas qu'elles soient mauvaises, il nous est dit sans arrêt qu'elle est bonne, créée par Dieu, mais l'on ne sait aussi que trop que la sexualité devient facilement lieu de l'emprise et de la violence. Les trois obligations sont donc liées fortement entre elles. Elles touchent à l'essentiel, la vie et le refus de la violence. Le refus de la violence. « Je vous donne ma paix », nous dit Jésus dans l'Évangile. À ce moment de l'Évangile, la violence rôde. Le sang de l'homme va être versé. Le Christ est à quelques heures de sa passion. Et il nous donne sa paix. La mort du Christ et le don de sa paix mettent-ils fin une bonne fois pour toutes à l'escalade de la violence ? On aimerait le croire. Mais comment le croire après toutes les horreurs qui ont marqué notre histoire et aujourd'hui encore? Et pourtant, oui, je le crois, c'est bien un tournant décisif qui se passe là dans l'Évangile. car à cette mort-là ne répondra pas une autre mort. Dieu ne se vengera pas de la mort de son Fils, son unique. Au péché de l'homme, au meurtre, Dieu ne répond que par le pardon. Père, pardonne-leur. Pour les croyants en ce Dieu-là dont nous sommes, c'est la fin d'une longue histoire, y compris biblique, au cours de laquelle les hommes se sont demandé si les catastrophes de toutes sortes qu'ils subissaient, d'origine humaine ou naturelle, n'étaient pas une revanche divine. Dieu est en colère, Dieu se venge, Dieu nous punit. Et peut-être encore parfois, nous faut-il encore lutter contre cette vision blasphématoire de Dieu. Car sur la croix du Fils éclate la vérité. Dieu est amour. Plus que cela encore, beaucoup plus, Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Il nous en a fallu du temps, des siècles et des siècles, pour que nous nous fassions à cette bonne nouvelle, à cet évangile. S'il y a une revanche de Dieu, et il y en a une, c'est de faire triompher l'amour là où se manifeste le paroxysme de la haine et de la violence. Alors oui, frères et sœurs, nous découvrons et nous croyons que, y compris dans nos souffrances les plus fortes, l'amour de Dieu, Dieu qui est amour, viendra habiter avec nous, pour peu que nous lui ouvrions la porte. Alors oui, le dernier mot de l'Évangile, c'est la paix. Et il répond à l'un des premiers mots des Évangiles. Paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Frères et sœurs, paix.